Bonjour, bienvenue à Aime l'été, notre dernière émission de la semaine, mais notre rendez-vous quotidien va se poursuivre encore. Il y a deux autres belles semaines qui nous attendent. On va donc continuer notre belle tournée de sujets et d'activités qui nous permettent de profiter pleinement de notre saison estivale. On a d'autres régions du Québec à découvrir. On discute de recettes pour faciliter la vie des jeunes, de chiens d'assistance pour soutenir et aider les gens. Aussi, on va se plonger dans le documentaire grâce à une plateforme numérique qui s'y consacre entièrement. C'est tout ça, Aime l'été. Et aujourd'hui, notre chroniqueuse voyage Maude Carrier vient nous parler d'une autre destination intéressante et peut-être méconnue, la région de Sorel-Tracy. Également, vous découvrirez ce que l'organisme Les Chiens d'Anakim peut apporter à des gens vivant avec un problème d'anxiété ou de choc post-traumatique, et puis un livre de recettes qui vise une clientèle de jeunes ayant séjourné en foyer d'accueil et qui a été piloté par la table des chefs. On y découvre des recettes faciles, savoureuses, nourrissantes et économiques, mais d'abord une plateforme numérique dédiée aux documentaires. Suivez-nous à Aime l'été, une heure de belles rencontres. Plattsburgh Drive in Blues, qui remonte à 1969, une chanson écrite et interprétée par Chantal Renaud, qui roulait ses airs, oui, pour cette chanson. La carrière de Chantal Renaud, qui s'amorce dans une période de grande effervescence culturelle au Québec à la fin des années 60, et c'est grâce à René Aumirois qu'elle va décrocher un poste de journaliste au Photojournal en 1964. À l'époque, elle n'avait que 17 ans, mais cela ne l'empêche pas de s'envoler pour la France en vue de faire des entrevues avec Coco Chanel et Bob Dylan, et oui, on la connaît évidemment comme chanteuse. Elle va enchaîner plusieurs succès à la fin des années 60. Chantal Renaud, qui a été aussi scénariste et actrice, elle est la veuve de Bernard Landry, 28e premier ministre du Québec. Eh bien, sur ça, on va demeurer dans les souvenirs par le biais du documentaire. Je vais discuter avec Jason Burnham, coordonnateur du programme de la plateforme Tank. Bonjour!
Bonjour, merci de l'invitation.
Ah ben, ça nous fait grand plaisir. La plateforme, en fait, c'est la plateforme européenne de vidéos à la demande consacrée au documentaire qui a désormais une version québécoise.
Exactement. Donc, nous, on est vraiment une plateforme indépendante consacrée à la diffusion de cinéma documentaire d'auteurs en ligne. Donc, ça a été lancé il y a un peu plus de 2 ans au Québec, mais c'est un projet qui a été créé tout d'abord en France en 2016.
Eh oui, alors c'est né à peu près en 2020, c'est ça, durant les rendez-vous Québec Cinéma. Et puis 2 semaines après, ben, c'était le début de la pandémie, mais ça tombe pas si mal parce qu'au fond, une plateforme numérique, alors c'était pas un problème pour vous de toute façon. Alors, c'était une belle façon d'apprécier cette nouvelle plateforme de documentaire, c'est quand même assez particulier. Et puis, bon, là, vous en êtes à votre 2e anniversaire. Et puis, bon, est-ce que là, on parle d'un grand débrouillage bientôt?
En fait, à chaque année pour notre anniversaire, on a l'habitude de faire un grand débrouillage comme certains postes de télé faisaient à l'époque. Donc, on offre la plateforme gratuitement disponible pendant un week-end habituellement. Donc, mais ça, c'est en février. Donc, ça va venir plus tard.
D'accord.
Mais sinon, à l'année, la première semaine d'abonnement est toujours gratuite. Donc, si vous voulez essayer, découvrir Tank, voir un peu ce qu'on a à offrir, ben la première semaine est toujours gratuite. Donc, c'est une belle manière de découvrir ce qu'on fait.
Bon. Alors, parlez-nous de cette plateforme-là qui offre effectivement des documentaires de partout dans le monde, au fond.
Oui, c'est vraiment des documentaires de partout. C'est sûr qu'il y a une belle part de documentaires québécois qui se retrouvent sur Tank, mais c'est vraiment des œuvres de création, du documentaire d'auteur, donc avec vraiment une démarche artistique derrière, avec toute la subjectivité de regard, si on veut. Donc, c'est vraiment, on est loin des standards de formatage journalistique ou de reportage, par exemple. Donc, c'est vraiment plus dans la création. Et c'est 5 nouveaux films par semaine qui arrivent sur la plateforme et qui restent pour une durée de 2 mois. Donc, il y a toujours un bassin d'une quarantaine d'œuvres accessibles aux abonnés. Donc, on voulait vraiment une plateforme à échelle humaine, donc présenter moins de films peut-être que d'autres plateformes, mais mieux les accompagner, prendre le temps de mieux les présenter, d'écrire des avis qui vraiment vont donner envie aux gens de les découvrir. Donc, c'est vraiment un peu l'angle qu'on a choisi de prendre chez Tank.
D'accord. Tank, en passant, c'est apparemment un mot Wolof, hein, c'est ça?
Exactement. Donc, T-E-N-K, c'est vraiment un mot Wolof qui est un peu l'équivalent du mot anglais « pitch ». Donc, ça veut dire énoncer une pensée de façon claire et concise. Et c'est un choix qui fait référence au nom des rencontres de coproduction organisées par DocMonde, qui est une des initiatives du village documentaire de l'USAF, d'où est partie la plateforme Tank.
C'est ça, donc, parce que Tank est basé, en fait, la maison mère, si on veut, est basée en Ardèche et ça a été fondé en 2015. Et puis d'ailleurs, ils ont organisé, l'équipe a organisé des états généraux du film documentaire. Enfin, ça,
exact. Ça, c'est un grand festival qui a lieu à l'USAS depuis au-delà d'une trentaine d'années. Donc, le village, vraiment, c'est un tout petit village, mais qui a un grand historique de lié au documentaire. Donc, il y a plein de sociétés de production, de distribution de films documentaires qui sont basées à l'USAS. Il y a le grand festival qui est là chaque année. Et il y a aussi, on peut suivre des études supérieures en cinéma documentaire là-bas pour les nouveaux cinéastes émergents. Donc,
d'accord.
C'est vraiment un village très particulier.
Et nous, là, c'est qu'en fait, on a une nouvelle section patrimoine, non, je pense, c'est ça?
Oui, sur Tank, en fait, ben, on voulait valoriser cette année beaucoup les films québécois, mais aussi le patrimoine québécois, parce que, comme vous le savez, ben, le documentaire occupe quand même une grande place dans notre héritage artistique. Voilà, on voulait le célébrer cette année sur Tank. Donc, on a fait une section patrimoine qui va recenser un peu les films plus anciens qu'on retrouve sur la plateforme, mais qui ont marqué le Québec et qu'on voulait revaloriser, en fait.
C'est ça, dont les films de Pierre Perrault.
Exactement. Donc, Pierre Perrault, qui est comme un très grand cinéaste québécois, un pionnier du cinéma direct, qui a vraiment marqué notre imaginaire. Et on voulait vraiment le célébrer ces temps-ci sur Tank. Donc, c'est pour ça qu'on a présenté 3 de ces films récemment, donc qui sont encore disponibles pour 2 mois sur Tank.
C'est ça. Donc, on peut les voir et revoir parce que c'est toute une œuvre hein, que celle de Pierre Perrault, vraiment. Revoir Pierre Perrault, là, les documentaires, c'est vraiment remonter le fil québécois du temps à travers les gens, leurs paroles. Et puis, bon, on se promène. Enfin, c'est toute l'identité québécoise. Bon, si on pense au fleuve, à la terre, à Abitibienne aussi, à l'Acadie, c'est vraiment tout un cinéaste.
Exactement, il a vraiment défriché un peu le Québec à travers sa caméra, mais surtout son micro, parce que pour lui, c'était vraiment la parole qui était importante. Et c'est aussi un artiste qui a beaucoup écrit, donc ce qu'on connaît moins, peut-être son œuvre littéraire, mais Lux Éditeur a entrepris de rééditer ses œuvres. Donc présentement, il y a 2 de ses livres qui sont reparus chez Lux, donc Tout-Île et Le Mal du Nord, qui sont vraiment des œuvres très belles à découvrir, assurément. Et c'est aussi un homme de radio assez important qui
c'est vrai.
En plus, est plus ou moins connu, mais Donc, on parle de tout ça un peu sur Tank, pour célébrer
Effectivement,
le
ouais.
grand homme qu'il était. Ouais.
Donc, littérature, cinéma, théâtre, poésie,
Oui.
radio, enfin, il a touché à tout finalement.
Oui.
Et puis, c'était vraiment, bon, c'est de la belle époque de l'ONF. Et puis là, ben, en fait, on parle de la trilogie de l'île aux Coudres, hein, je pense, dans ce que vous présentez comme
Oui.
programmation pour Pierre Perrault.
Ben, en fait, on connaît surtout Pierre Perrault pour pour La Suite du Monde, qui est vraiment l'œuvre
Ouais.
culte un peu de notre héritage cinématographique, mais on voulait présenter d'autres aspects aussi de son œuvre, qui s'est comme échelonné sur plus de 50 ans. Donc, on a choisi trois films qui représentent trois époques différentes de sa filmographie. Donc, on a La Traverse d'hiver à l'île aux Coudres de 1960, Un pays sans bon sens de 1970 et Cornouailles, son tout dernier film réalisé en 1994.
C'est ça. Donc, en fait, on peut voir des extraits si vous voulez aller voir. Il y a des extraits disponibles sur YouTube. Mais en tout cas, chose certaine, ouais, vraiment, ça vaut la peine. Alors, bon, parlez-moi davantage. Alors là, on s'abonne à votre plateforme et puis on a droit à un certain nombre, enfin, aux films qui sont disponibles. Mais comme là, par exemple, vous nous faites des programmations un peu spéciales parce que durant l'été, il y avait une programmation un peu plus hop la vie.
Oui, exactement. Donc, on s'est dit, avec l'été, les vacances, mais aussi un peu tout ce qui se passe dans l'actualité, on a quand même besoin de légèreté. Et le documentaire, c'est souvent associé, bon, à des démarches pour contester, dénoncer, montrer un peu les failles de nos sociétés. Donc, on voulait vraiment faire un pas de côté puis diffuser des films plus lumineux, drôles, poétiques, réfléchis aussi. Donc, on propose aussi des films, c'est ça, peut-être plus légers, humoristiques, ludiques. Donc, on a mis ça en ligne très récemment. Donc, on a des films qui explorent la mise en place d'ateliers de philosophie chez les jeunes de 3-4 ans en maternelle, par exemple, ou un film d'animation vraiment haut en couleur qui montre un peu toute l'étendue des textiles utilisés partout dans le monde. Donc, tu sais, ça va vraiment dans plusieurs directions, mais c'est des films plus agréables à regarder qui font vraiment. C'est l'évasion, en fait, via le documentaire.
C'est ça, donc. Alors, bon, c'est pas plus compliqué que ça, donc. Et puis, finalement, c'est ça, les films sont disponibles pendant un certain nombre de temps. Et bon, ben, vous avez quand même, je pense, au niveau des archives, vous avez quoi, quelques 150 films disponibles?
Oui, en fait, il y a toujours cinq nouveaux films, comme je disais, qui arrivent en ligne à chaque semaine. Certains restent par la suite, après leur période de diffusion de 2 mois, en location, comme une offre de rattrapage un peu, parce qu'on disait c'est tellement des films qui sont durs à trouver ailleurs qu'on voulait laisser une trace pour ces films-là. Donc, c'est possible de les louer à très petit prix par après, comme une offre de rattrapage, si on veut. Mais sinon, les abonnés ont accès à 250 films par année, donc 5 nouveaux films par semaine et un bassin d'une quarantaine d'œuvres en tout temps.
Donc, bon, alors c'est quand on s'abonne et ça coûte combien à peu près par mois?
C'est 10 $ par mois, ou ceux qui veulent vraiment plus des abonnements à long terme. Il y a des abonnements de 6 mois et 1 an. Ceux qui veulent vraiment plus soutenir notre mission puis découvrir des œuvres extraordinaires à l'année, ben, je vous encourage à prendre des formules plus longues d'abonnement. Puis sinon, il y a toujours la première semaine gratuite pour découvrir la plateforme.
D'accord. Est-ce que vous avez des documentaires, qui sont présentés aussi en vidéo description?
En fait, la vidéo description, non, malheureusement, parce qu'on est quand même un jeune organisme puis on n'a pas les fonds nécessaires pour faire la vidéodescription pour tous les films qu'on présente à l'année. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'accessibilité, c'est vraiment un enjeu auquel on tient. Et par rapport au sous-titrage ou au sous-titrage codé pour personnes sourdes ou malentendantes, quand on fait l'acquisition des droits des films, on demande toujours d'avoir ces fichiers de sous-titres-là. On croit que c'est vraiment essentiel de les avoir, mais comme c'est des documentaires indépendants avec peu de budget, certains en ont pas, malheureusement. Donc, c'est vraiment un travail à faire. Puis
Oui,
nous,
je
dans
comprends.
toutes les programmations qu'on fait, les demandes de subventions qu'on fait, on inclut toujours un budget pour le faire à l'interne. Donc, nous, on engage. Il y a plein d'organismes merveilleux qui font un travail remarquable par rapport au sous-titrage pour malentendants. Donc, on les engage pour sous-titrer des films, mais c'est des projets sur le long terme.
Oui, non, je comprends. Alors, ben, écoutez, bravo, bravo, c'est vraiment intéressant. Et puis, bon, le documentaire, c'est passionnant. Je pense qu'on peut découvrir une foule de sujets. Et puis, voilà, ben, écoutez, une nouvelle plateforme consacrée au documentaire. Alors, on s'abonne, on va sur votre site pour tous les détails. Alors, c'est
Oui.
TE-TREMA-NK Tank. Voilà, et puis, c'est ça, on va découvrir toute votre programmation.
Ben merci, merci.
Ben, merci infiniment d'être venu nous en parler.
Ça fait plaisir, bonne journée.
Au plaisir.
Dans un boudoir, introduisez un cœur bien tendre. Sur canapé, laissez s'asseoir et se détendre. versez une larme de Porto, et puis mettez-vous au piano, jouez Chopin. Avec dédain. Égrenez vos accords, et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors. Le second soir, faites revenir ce cœur bien tendre. Faites mijoter trois bons quarts d'heure à vous attendre. Et s'il n'est pas encore parti, soyez-en sûr, c'est qu'il est cuit. Sans vous trahir, laissez frémir. Faites attendre encore, et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors. Le lendemain, il ne tient qu'à vous d'être tendre. Tamisez toutes les lumières, et sans attendre, jouez la farce du grand amour. Dites jamais, dites toujours, et consommez sur le canapé. Mais après les transports, ah, s'il s'endort, alors là, foutez-le dehors.
C'était la recette de l'amour fou avec Serge Gainsbourg. L'auriez-vous reconnu? Eh bien, moi, non. Effectivement, il était bien jeune, faut dire. Une chanson de 1958, et oui, ça remonte à ses débuts. Serge Gainsbourg, qui nous a quittés le 2 mars 1991, auteur, compositeur et interprète français bien connu et apprécié notamment pour ses textes. Et juste pour revenir, tiens, sur les paroles qui se déclinent comme une véritable recette, on dit « Dans un boudoir, introduisez un cœur bien tendre, sur canapé, laissez s'asseoir et se détendre, versez une larme de Porto. » Le second soir, faites revenir ce cœur bien tendre, faites mijoter, trois bons quarts d'heure à vous attendre, et s'il n'est pas encore parti, soyez-en sûr, c'est qu'il est cuit. C'est très drôle. Alors, parce qu'une recette n'a pas forcément à être compliquée et qu'il s'agit avant tout de bien s'alimenter, on va s'intéresser à des recettes savoureuses, pas chères, pour que des jeunes puissent commencer à cuisiner. On vous parle d'un livre de recettes destiné à des jeunes qui n'ont pas eu de modèle, peut-être, pour apprendre à cuisiner. On va en discuter avec Geneviève Massé, qui a piloté le projet Trop Bon, un livre paru aux éditions La Presse. Eh bien, bonjour Geneviève Massé.
Bonjour, Madame Lavoie.
Bon, vous êtes directrice du volet éducation culinaire à la Tablée des chefs, hein, qui est donc derrière ce beau projet. Alors, justement, parlez-nous-en de la Tablée des chefs d'abord.
Ben oui, ça va me faire plaisir. La Tablée des chefs, écoutez, comme mission de nourrir aujourd'hui, en fait, pour lutter contre l'insécurité alimentaire, mais d'éduquer aussi les jeunes pour développer leur autonomie alimentaire. Donc, c'est de nourrir une portion à la fois, puis d'éduquer un jeune à la fois. Bonhomme à l'an, on a distribué plus de 13 millions de repas, des portions cuisinées. Donc, c'est vraiment assez exceptionnel. On est ni plus ni moins un entremetteur au niveau de nourrir entre le donateur, qui peut être un centre hospitalier, un restaurant, un centre sportif, comme vous connaissez bien le Centre Bell, et les organismes qui distribuent aux gens dans le besoin. Donc, c'est ce que fait le volet nourrir. Et en contrepartie, ben, on aime aussi éduquer les jeunes. Donc, je dirige effectivement les programmes éducatifs de la Tablée des chefs. Donc, on a deux beaux programmes. Un d'entre eux, c'est le programme des brigades culinaires. C'est essentiellement là, des ateliers culinaires qui permettent de partager le savoir des chefs, de développer les compétences culinaires des jeunes entre 12 et 17 ans. C'est un programme parascolaire dans les écoles secondaires. Donc, on a débuté ces ateliers-là, évidemment, au départ, ça existait dans des écoles qui détenaient des indices de défavorisation élevés. Et pour maintenant, ben, se retrouver dans plus de 250 écoles secondaires à travers le pays, parce qu'on a un impact quand même pan-canadien. Et notre deuxième programme que je dirige également, ben, c'est un programme qui s'adresse aux jeunes de la DPJ. Donc, c'est un programme qui se décline en trois volets. Là, on a le trousseau culinaire, les ateliers culinaires et un bloc employabilité.
Vous savez, dans les écoles, ben, vous parliez des écoles parce qu'avant, il y avait l'économie familiale, mais je pense que ça n'existe plus, hein?
Exactement, mais c'est pour ça que je pense que Jean-François Archambault, notre président fondateur, avait vraiment le souci de redonner ses lettres de noblesse au programme d'économie familiale qui, malheureusement, est disparu de nos écoles et je pense qu'on aurait tout intérêt à voir...
À les remettre à l'ordre du jour, oui.
Exactement.
Parce que, oui, c'est ça, parce qu'on y apprenait plein de choses, enfin, des choses de la vie quotidienne, dont justement se faire à manger, quoi. Et puis, bon, alors justement, vous parlez de Jean-François Archambault. Lui, c'est un projet de vie, finalement, puisqu'il en est le fondateur. Alors, il a vraiment cherché toute sa vie à développer cette autonomie chez les jeunes.
Absolument, absolument. Ça a été un leitmotiv de son côté, de non seulement redonner aux gens dans le besoin en nourrissant les gens, mais de toujours avoir la préoccupation d'éduquer les jeunes. Ça a été sa préoccupation depuis plusieurs années. La Tablée des chefs fête ses 20 ans cette année. Et donc, petit à petit, là, il a lui-même testé à travers des écoles, des ateliers culinaires qu'il donnait lui-même aux jeunes, qui tenchait de tester là, les jeunes, voir c'est quoi le besoin. En réalité, Jean-François et toute l'équipe, on est dirigés de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on va toujours... palper le besoin sur le terrain. Alors,
c'est
ça a toujours été ça.
Mieux saisir les besoins réels, exactement.
Exactement.
Et
exactement.
L'intérêt aussi, et finalement les goûts alimentaires, oui, en même temps. Oui, c'est important. Mais donc, c'est vrai que, vous savez, on apprend souvent la cuisine de nos parents. Et bon, parfois, on a quand même besoin d'un petit coup de pouce plus tard, hein, lorsqu'on quitte la maison, quand on doit voler de nos propres ailes. Mais là, vraiment, on s'intéresse à une clientèle aussi très spécifique qui n'a pas eu de modèle parental, au fond, ces jeunes qui se sont retrouvés souvent en famille d'accueil.
Tout à fait, tout à fait. Ça a été un heureux hasard, en fait. Ça a été le réseau, dans le fond, qui a approché Jean-François en le voyant tester, justement, dans les écoles secondaires. Bien, s'est dit, écoute, c'est important, oui, d'offrir à tous les jeunes et de redonner un peu d'économie familiale à nos écoles, oui. Mais aussi... on a tendance à oublier les jeunes de la DPJ, qui sont en fait ultimement moins... qui ont moins accès, dans le fond, à ce
c'est
genre
ça.
D'outils-là.
Ils
à
sont
ce
moins
genre
outillés d'emblée, oui, bien sûr.
Exactement, comparativement aux autres jeunes. Donc, par leur situation, par la prise en charge aussi, je dirais, de leur alimentation par l'institution, tu sais, qui ne favorisent pas... dans le fond, une participation active dans la cuisine comme on pourrait le vivre, nous, au quotidien, dans les familles.
C'est ça. Donc, c'est une clientèle qui passe sous le radar.
Exactement. C'est en plein ça. Puis c'est ce qu'on veut, essayer d'aller les outiller. C'est un milieu qui est très hermétique. Donc, c'est pas rare de voir les jeunes se retrouvent à 18 ans, malheureusement, avec très, très peu d'exposition alimentaire, culinaire. C'est pas rare de voir non plus des jeunes qui connaissent même pas la provenance, tu sais, des aliments, qui ont jamais mis un pied dans l'épicerie. Puis, tu sais, Dieu sait qu'avec l'offre alimentaire qu'on connaît aujourd'hui, là, même moi, ça peut m'intimider, l'épicerie en tant que telle, parce qu'il y a tellement de choix, il y a tellement, on sait plus où donner de la tête, mais ça peut vraiment être très intimidant pour un jeune. En fait, même si c'est une source d'anxiété.
Oui, bien entendu.
Du jour au lendemain, de se retrouver dans une situation où on doit faire ses propres provisions, puis on doit subvenir à son besoin primaire, là, qui est de se nourrir quotidiennement, c'est quand même assez confrontant. Puis ironiquement, c'est des jeunes qui, justement, vont être confrontés à la vie autonome là, beaucoup plus tôt que la moyenne des ours. Là,
tu sais, fait
que c'est
vrai.
Comme un paradoxe en réalité. Donc, pour nous, à la tablée, là, avec le réseau qui est venu frapper à notre porte, mais je dirais que la clientèle des jeunes de la DPJ, c'est devenu une évidence là, dans notre engagement, dans notre mission. Puis, tu sais, on a tellement intérêt, je pense, comme société, à investir aussi dans l'avenir de ces jeunes-là. Il ne faut pas les oublier.
Mais,
on dit que ça prend un village pour élever un enfant.
Oui,
là,
c'est ça, c'est vrai.
Ouais.
Mais on les rejoint comment, au fond? Et puis, bon, là, vous avez, je vois, j'ai devant moi un superbe... Enfin, j'ai un livre de recettes, dis-je bien. D'ailleurs, qui a un petit côté très rétro, c'est très drôle, hein? Ça fait très réconfortant,
oui.
À la fois.
Et puis,
oui, c'est ça, très coloré et tout. Et puis, alors, plein de recettes, bien sûr, mais est-ce que ce livre s'adresse spécifiquement à cette clientèle-là? Pas vraiment.
Non, en fait, mais
C'est pour tout le monde.
C'est pour tout le monde, effectivement. C'est un magnifique livre. Puis vous l'avez dit, tu sais, on a une belle facture visuelle là, qu'on doit à Virginie Gosselin, qui a travaillé avec nous sur ce livre-là. Puis un styliste culinaire aussi qui a été fait par Patrice Gosselin, qui est vraiment fantastique. Oui, c'est un ouvrage qui est magnifique. On est très fiers, mais c'est disponible en librairie à travers le Québec. On a travaillé fort avec Nathalie Billet, des éditions La Presse, qui a vraiment très, très bien compris ce qu'on voulait faire avec le livre, à qui on s'adressait. Oui, on s'adresse aux jeunes des centres jeunesse, de la DPJ, mais pas que, évidemment. On sait très bien que la transition à la vie autonome, c'est pas l'affaire que des jeunes de la DPJ. C'est aussi vrai pour plein d'autres jeunes, pour plein d'adultes, même des jeunes adultes qui commencent leur vie et qui s'aperçoivent que, bon, ils n'ont pas nécessairement adressé le sujet dans leur milieu, leur résidence auparavant, ou des fois par pur manque d'intérêt, des fois. Tu sais. Ouais. Alors, c'est sûr que quand on est confronté à être dans sa cuisine et devoir se faire à manger, ben des fois, l'intérêt monte d'un cran. C'est là qu'il y a
le déclic, bien sûr. Et puis en même temps, dans le livre, ce qui est intéressant, c'est que oui, vous avez toutes sortes de recettes. Et puis, ça part dans tous les sens. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un petit côté très diversifié au niveau des cultures aussi, hein, parce qu'il y a des recettes qui viennent de partout dans le monde, au fond. Des ingrédients, du moins, qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde ou, enfin, qui réfèrent à des cultures différentes. Mais cela dit, il y a aussi la question du budget. Vous donnez des petits trucs et astuces aussi, par exemple, au niveau de comment faire ses provisions, comment gérer, c'est ça, votre frigo, etc. Il y a plein de choses là-dedans aussi qu'on apprend.
Vraiment, vraiment. Puis vous l'avez dit, Mme Lavoie, tu sais, je suis contente que vous l'abordiez, que oui, ça reflète un peu toutes sortes de recettes. On va un petit peu dans tous les sens. Pourquoi? Parce que ce livre-là, il n'a pas été développé que pour les jeunes, mais il a été développé avec les jeunes.
Ah,
et
oui.
C'est ça qui a été intéressant, c'est qu'on a été consultés en amont dans l'exercice de la conception du livre. On a vraiment formé des groupes de discussion avec les jeunes de la DPJ à travers le pays, donc des jeunes de la DPJ au Québec, mais aussi des jeunes qui ont cette même équivalence ou cette même quête de rechercher des recettes qui vraiment leur parlent et qui sont capables de refaire, de reproduire.
Donc, ouais, c'est ça aussi.
On a vraiment pu aller chercher quelque chose d'intéressant à ce niveau-là.
Ah,
comme
ouais.
Par exemple, ils nous ont dit... écoutez, nous, on aimerait ça, voir plus de choix végétariens. On a
de la difficulté. Ah ben oui, parce que vous offrez cette possibilité-là. Oui. Ben écoutez, ça a été, c'est vraiment très intéressant, Geneviève Massé. Puis ben, on trouve le livre trop bon en librairie, alors pas de problème. Ça, c'est vraiment, et puis la tablée des chefs, on s'informe là-dessus. C'est vraiment très intéressant. Alors bravo pour ce livre. Et puis bon, alors on va évidemment piquer des petites recettes là-dedans sans faute.
Ben, on espère bien. C'est vraiment l'objectif. Hein? L'objectif,
ouais,
c'est
bien sûr.
De transmettre le plaisir de cuisiner. Fait
que tout à fait.
Avec le livre trop bon, mais vous avez vraiment l'outil
par excellence. Ben, merci bien. Je vous remercie. Passez une excellente journée. Bravo.
Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Vous écoutez Aime l'été.
Et c'est maintenant notre deuxième moitié d'heure qui s'amorce. J'en profite pour remercier à la recherche Catherine Bourderon. Eh bien oui, Aime l'été, je vous rappelle que nous sommes là jusqu'à 13h. Et pour notre prochain segment, eh bien dans les prochaines minutes, on va retrouver notre chroniqueuse voyage Maude Carrier. Alors à tout de suite, restez là.
Quand on veut une femme et qu'on n'en a pas, et que le temps passe, qu'on pense à autre chose mais qu'on ne peut pas penser à quelqu'un d'autre. Qui a pris mon âme en prenant ces choses pour aller où il faut aller, au fond des choses. Partir quelque part pour partir, pas pour fuir, ni changer, pas pour s'en aller. Aller quelque part, s'en aller, retrouver l'air et le pollen. Je t'aime. Le soleil emmène au soleil. Le matin, au midi, et les enfants jouent avec la vie. Le soleil emmène au soleil. Et la vie s'élargit pourtant sur quatre continents. Au soleil. Partir quelque part pour partir comme on est, comme on glisse, et recommencer à apprendre à vivre et vivre en soi. Continuer et parler beaucoup et se donner tout à fait. Le soleil emmène au soleil. Et le jour au midi, et les enfants jouent avec l'hiver. Le soleil emmène au soleil. Et la pluie se répand quelque part dans un autre univers. C'est beau.
Vous aurez reconnu Jean-Pierre Ferland, qui se passe bien sûr de présentation. Et bien là-dessus, ça nous fait une belle transition quand même à Aime l'été pour parler voyage. Et puis c'est ça, la semaine dernière, bonjour Maude Carrier, notre chroniqueuse voyage qui est là avec nous. Alors toujours contente de vous retrouver, hein, ça nous fait, c'est le cas de le dire, voyager, ça nous amène ailleurs, dans d'autres univers. Ben, la semaine dernière, nous étions sur la Côte-Nord, à cette île. Bon, alors cette semaine, on se rapproche un peu de Montréal. On prend le tour de 30 vers Sorel-Tracy.
Oui, exactement. Je vous ramène un petit peu plus près, peut-être pour une escapade un peu plus... une escapade d'un week-end, donc pas besoin de partir sur la route pendant des heures.
Oui, non, c'est ça. D'ailleurs, je vous arrête deux secondes parce que j'ai remarqué que vous en parliez cette semaine dans votre blog mcglobetrotteuse.com. Et puis, on peut voir de belles photos. Alors, en voyant les photos en plus, ben, ça nous donne... ça complète bien votre chronique.
Exactement. Ouais. Si vous avez le goût de voir un peu de quoi je parle, eh bien, tout s'y trouve.
Parfait. OK. Alors donc, c'est ça. On prend la route, on s'en va dans les îles de Sorel. Et puis, est-ce que c'était la première fois, Maude, que tu allais là-bas?
Eh oui, c'était ma première fois. J'ai passé toute la fin de semaine là, la fin de semaine dernière, justement. Donc, je suis quand même excitée de vous en parler aujourd'hui parce que je ne connaissais pas cette destination-là. Et ma foi, justement, c'est à 45 minutes, une heure de Montréal. On est tout près.
Oui.
Donc, pourquoi pas prévoir une petite escapade d'une journée ou d'une fin de semaine dans les îles de Sorel? C'est quand même Sorel, c'est 103 îles. Hein? Donc, c'est vraiment un petit paradis pour les amants de la nature. Il y a des marais, des chenaux, îles, îlots. Il y a vraiment une faune et une flore très diversifiées et même une réserve protégée. Puis, petite information intéressante, Sorel est la quatrième plus vieille ville du Canada.
Chose que je ne savais pas.
Oui. Et bon, aujourd'hui, Sorel, c'est une ville un peu plus industrielle, un peu plus portuaire, mais il y a quand même plusieurs activités à faire. Et fait cocasse, c'est en 1781, à la Maison des gouverneurs de Sorel-Tracy, qu'est apparu le premier arbre de Noël illuminé au Canada.
Ah bon?
Je ne savais pas que c'était une tradition qui venait de chez nous.
D'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi hein, que ça, c'est né là-bas. Enfin, bon, ça existait
l'histoire
ailleurs,
ne le
remarquez.
Dit pas, mais quand
bon,
même.
Pourquoi on a décidé d'illuminer pour la première
c'est
fois?
C'est là que ça s'est passé.
À Sorel. Bon, d'accord.
Donc, quoi faire à Sorel? Hein?
C'est ça, oui. Parce que l'eau est omniprésente à Sorel.
Exactement. Donc, il faut d'abord observer les îles par les différents. les différents marais. Et justement, la Maison du Marais propose la location de kayaks et de canots pour découvrir le plus grand marais aménagé à l'est de l'Amérique du Nord.
Oui, en fait, c'est comme des... Ben vous, là, on parlait de canots, enfin, de l'embarcation, mais ce sont des canots, en quelque sorte, oui.
Exactement.
AUX, oui.
Je trouve que c'est comme un petit labyrinthe, en fait, dans lequel on se promène. Ouais. Comme ça, c'est important de passer au pavillon d'accueil, hein, chercher sa petite carte pour pas se
pour
perdre.
Pour pas se perdre, oui.
Mais bon, les locations se font à coût de 3 heures, donc c'est vraiment génial parce qu'on a le temps d'explorer et d'y aller tout tranquillement. On peut aussi apporter sa propre embarcation si jamais on préfère ne pas en louer sur place. C'est vraiment magique. Moi, j'étais là tôt le matin, donc la nature se réveille. C'est très tranquille, il n'y a pas énormément de gens. Puis on entend les wawarons, on voit les nénuphars,
les tortues. C'est ça, c'est toute la faune en même temps, oui.
Les grands hérons, les oiseaux. Bon, je connais pas toutes les espèces d'oiseaux, mais j'en ai vu que je connaissais pas. Donc, c'est vraiment paisible de se rendre.
Ouais, comme tu le disais, là, ce sont des marais, au fond. Alors, c'est sûr que là, il y a toute une faune particulière aussi.
Exactement, c'est très diversifié. Et si vous préférez faire de la planche à pagaies, il y a Passion Planche, tout près de là aussi, qui propose la location pour pagayer dans ces marais-là.
Mm-hmm. Bon, alors on fait des excursions en bateau également.
Oui, justement, si vous voulez pas mettre du bois.
Oui, on n'est pas obligé d'y aller par nous-mêmes, en fait, avec notre kayak ou enfin louer une embarcation, mais il y a des excursions un peu plus organisées, quoi.
Exactement, il y a Statera Experience qui offre des croisières guidées qui durent de 1h30 à 2h30 avec plusieurs départs par jour qui permettent de naviguer jusqu'à l'embouchure du lac Saint-Pierre pour ensuite voguer à travers les chenaux. Et c'est justement une des excursions qui sont accessibles pour personnes à mobilité réduite. Ces croisières-là sont guidées, donc il y a une interprétation qui est faite. On vous présente l'histoire des îles de Sorel et aussi le lac Saint-Pierre et son importance dans le fleuve Saint-Laurent.
Oui, je disais des canaux, mais il faut les appeler les chenaux.
Les chenaux, oui, c'est ça.
Alors, sur Terre aussi, il y a plein de choses à découvrir.
Oui, parce que, sur le retour sur Terre, Statera offre aussi 45 minutes. En fond, c'est une expérience interactive de 45 minutes qui parle d'une histoire un peu... il l'appelle la 104e île de Sorel. Là, donc, on embarque dans une histoire un peu rocambolesque, vraiment sympathique. Donc, on se promène dans cette expérience-là. Puis, il y a aussi des projections vidéo qui sont faites sous le dôme. Ils ont aussi installé des petits hamacs au-dessus du sable. Donc, on peut juste s'installer là, regarder les grands bateaux passer sur le fleuve Saint-Laurent. Puis, le parcours interactif, justement, est adapté également aux personnes à mobilité réduite. Donc, c'est super intéressant.
Ah, ben c'est bien de savoir ça. C'est important, oui. Tout à fait. Et puis, on parle du le Biophare, hein, c'est ça? Donc, ce musée.
Oui, mais juste avant de parler du Biophare, je veux vous spécifier que les îles de Sorel, c'est un véritable paradis pour les ornithologues.
Ah,
donc,
c'est vrai.
Je m'y connais pas en oiseaux, mais c'est vraiment l'endroit où aller. Il y a la réserve de la biosphère du lac Saint-Pierre qui est reconnue par l'UNESCO, qui permet d'observer une faune et une flore là, vraiment impressionnantes. C'est à cet endroit qu'on retrouve d'ailleurs la plus grande héronnière en Amérique du Nord, avec près de 600 nids. Donc, si vous aimez les grands hérons, là, c'est vraiment l'endroit.
C'est l'endroit pour y sortir vos appareils photo, effectivement.
Oui, c'est ça. Il y a 288 espèces d'oiseaux, dont certains en voie de disparition qu'on retrouve, et certaines espèces rares de plantes aussi. Donc, apportez vos jumelles et justement un bon objectif pour l'appareil photo.
Bon.
Et la Biophare, justement, c'est un musée, dans le fond, qui est consacré justement à cette biosphère-là, donc à tout ce qu'on retrouve à Sorel, Tracy et sur le lac Saint-Pierre. Et les premiers dimanches du mois, c'est l'accès gratuit. Donc, si jamais vous voulez y aller gratuitement, allez-y les dimanches.
D'accord. Est-ce que c'est juste l'été, les premiers dimanches du mois, ou c'est à peu près...
Non, c'est à l'année.
C'est à l'année, hein, c'est ça.
À moins qu'il change en cours de route.
Bon. Parce que là, on parle de l'été, on parle de l'automne. Bon, l'hiver, c'est moins évident, mais il y a certainement des choses aussi intéressantes à faire. L'hiver.
Oui, définitif, parce que vous amener en randonnée, mais la randonnée se fait aussi, évidemment, en raquette,
c'est
en
ça.
Ski.
Ça ferait l'objet d'une autre chronique.
Exactement, oui, c'est ça. On s'en reparle plus tard
en
saison.
Oui. Alors oui, une belle randonnée, en fait, qu'on peut faire aussi.
Oui, donc au parc régional des Grèves, qui est vraiment situé entre le fleuve et la forêt, ils ont 13 km de sentiers qui sont très accessibles. On s'entend, on est pratiquement sur le plat. On se balade à travers des marais, des tourbières, on voit des pins ancestraux. Il y a une passerelle de bois aussi qui est super jolie, donc qui passe à travers le marais. Et il y a un sentier de pratiquement 2 km qui est complètement asphalté. Donc, c'est super facile si jamais vous êtes avec une chaise roulante.
Réduite,
exactement.
Oui, ça,
donc,
c'est bon.
Ça vous permet de profiter de la belle forêt ambiante.
Mm-hmm. Alors, c'est ça, des pistes cyclables et tout. Il y a un rallye vélo, tiens.
Oui, c'est le dernier week-end justement pour participer, pour tenter de gagner des prix. Donc, rendez-vous sur la piste cyclable La Sauvagine et allez faire un tour là, sur tourismesorel-tracy.com où vous pouvez remplir un petit questionnaire pendant que vous vous baladez à vélo. C'est un trajet de 18 km, d'environ 1h30, 2h. Ça vous permet de remporter des prix comme ça tout en faisant votre balade.
D'accord. Alors, il y a des activités nature, mais aussi pour les amateurs d'art et de culture, ben là, vous êtes bien servis aussi.
Eh oui, c'est pas juste pour les amateurs de nature, effectivement. Donc, au Quai Richelieu, il y a le Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy qui propose des expositions d'art visuel, des sculptures, des arts multidisciplinaires, même des performances et des prestations musicales parfois. Il y a même du côté de la Maison des gouverneurs qu'on propose des expositions d'artistes contemporains, des spectacles à l'occasion. On peut télécharger l'application Balado Découverte et il y a un petit circuit piétonnier là, qui vous amène à certains points d'intérêt là, pour permettre d'en connaître un peu plus sur la Maison des gouverneurs et justement les débuts de Sorel-Tracy en tant que quatrième plus vieille ville canadienne.
C'est ça. Bon, très intéressant. Maintenant, passons à la détente,
Maude. Oui. C'est important de prévoir un petit moment pour relaxer.
Oui.
Et justement, il y a le Haut Spa Nordique qui est situé dans l'hôtel de la Rive, dans lequel on retrouve 6 bassins chauffés, un sauna sec, un hammam à vapeur, il y a un petit foyer et il y a beaucoup de chaises longues pour simplement se prélasser et admirer le fleuve qui est tout près. Donc, c'est vraiment un endroit parfait pour se détendre et se relaxer les muscles après toutes ces activités.
Ben oui, parce que là, on a fait de la randonnée, on a pagayé et puis tout
c'est important.
On faut se reposer. Alors, on a de bonnes adresses aussi où manger.
Oui, justement, j'allais te demander, Chantal, est-ce que tu connais la fameuse giblotte de Sorel?
Eh bien, tiens, oui, j'y suis allée, mais ça fait très longtemps. Mais effectivement, j'avais goûté. Enfin, il y a des pommes de terre là-dedans, il y a un peu de viande, il y a du poisson. Non, pas de viande, hein, il y a du poisson. Essentiellement, oui, c'est ça. Ben, initialement, là, on avait de la barbotte.
C'est maintenant de la perche chaude, des filets de perche chaude qu'on retrouve. Donc, c'est vraiment un potage consistant, là, donc de légumes, tomates, de filets de perche chaude qu'on mange avec un gros pain de ménage, là, avec bien du beurre. On se gâte. C'est au restaurant Marc Beauchemin qu'on peut goûter à cette fameuse spécialité locale. Ce restaurant, apportez votre vin d'ailleurs, donc apportez votre boisson pour profiter
C'est
de
ça.
Ce
d'ailleurs, il y a un fameux, je ne sais pas si on l'a encore, ce fameux festival de la giblotte.
Ailleurs,
mais bon, là, eux, c'est le festival de la giblotte.
Effectivement.
Bon. Alors, c'est à voir. Maintenant, ben, c'est ça, vous avez parlé d'un restaurant quand même intéressant, le Marc Beauchemin, oui, c'est ça?
Oui, exactement. Il y a aussi le Belvédère qui est vraiment sur l'eau, là, tout juste à côté de la marina, qui offre un beau panorama sur le fleuve Saint-Laurent pendant qu'on déguste une expérience. À vrai dire, ils offrent la cuisson sur pierre volcanique. Donc, c'est un peu l'équivalent de la fondue chinoise, mais sur pierre volcanique. Donc, on fait cuire notre viande comme ça.
Tiens donc.
Une belle expérience. Puis la pâtisserie Christophe que je vous recommande si jamais vous voulez aller vous chercher un petit lunch ou un petit déjeuner. Donc, ils ont des plats santé, des viennoiseries, ils ont une limonade maison du jour qui est vraiment à essayer.
Ouais, vous avez une photo là-dessus sur votre site d'ailleurs.
C'est très rafraîchissante, j'ai bien aimé, j'y retournerai juste pour la limonade. Très sincèrement, c'était parfait.
Bon, parfait. Et l'hébergement aussi, hein, ben, il y a l'écluse numéro 10, hein, c'est une terrasse panoramique aussi.
Oui,
pour
exactement. Donc, il y a vraiment plusieurs bonnes adresses.
Oui, exactement. Et l'hébergement, on n'oublie pas ça rapidement.
Oui, ben, il y a plusieurs terrains de camping, donc, dont celui au lieu historique national du canal de Saint-Ours. Donc, les tentes authentiques qui sont déjà toutes équipées. Mais si vous voulez quelque chose de plus douillet, il y a l'hôtel de la Rive avec vue sur le fleuve. Ils ont des balcons sans chambre. Donc, c'est un endroit qui est vraiment charmant sur le bord de l'eau.
Bien, en conclusion, c'est une destination vraiment surprenante et qui offre autre chose, finalement, autre paysage. Alors, vraiment, puis c'est une escapade d'une journée ou d'un week-end. Enfin, c'est très intéressant, Maude.
Exactement, mais ça me fait plaisir. J'espère que vous allez aller découvrir Sorel prochainement.
Bien, pourquoi pas. Alors, on se rencontre, on se retrouve la semaine prochaine, Maude.
Définitif.
Bon, alors, est-ce que je peux demander de quoi il s'agira?
On s'en va du côté de Gatineau et d'Ottawa.
D'accord. Bien, à suivre. Merci, Maude. Bonne journée.
Bye.
Une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien biguiner. C'est bon pour le moral. 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 Si t'as doudou bien balancé, pour Playboy super sapé, et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral.
Chanter.
C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral, c'est bon.
c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Rouler, rouler. C'est danser, danser. C'est rouler, rouler. C'est danser, danser. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral.
Ça met de l'ambiance. La compagnie créole qui sera en tournée au Québec à partir de février 2023. La compagnie créole qui nous a toujours beaucoup visités ici au Québec. Eh bien, pour notre prochain sujet, j'accueille Sonia Baillargeon, fondatrice de l'organisme Les Chiens d'Anakim, cet organisme qui forme des chiens d'assistance pour des gens ayant des besoins particuliers comme l'anxiété ou des stress post-traumatiques. On va voir comment les chiens d'Anakim, c'est bon pour le moral de ces personnes qui vivent avec des troubles d'anxiété ou ayant à vivre avec un handicap. Bonjour Sonia Baillargeon.
Bonjour.
Bon, alors écoutez, quand on pense à votre organisme, là, on pense tout de suite, bien sûr, à la Fondation Mira qui œuvre auprès des non-voyants, mais quelle est la spécificité de votre organisme?
Nous, on va plutôt œuvrer vers les personnes ayant de l'anxiété, stress post-traumatique ou les personnes autistes. Donc, ça va les aider là, à sortir un peu de la maison pour pouvoir reprendre une vie un peu plus normale.
D'accord. Est-ce qu'il y a une race de chiens qui est plus désignée pour ce genre de travail? Ben, je pense, bon, la Fondation Mira, ben, c'est toujours à peu près le même type de chien là, qu'on retrouve. Mais vous, quels sont les chiens que vous utilisez pour ce genre de formation, si on veut?
On n'a pas de préférence, on a un peu, si on peut dire, de tout. On a du berger allemand au caniche, on a un livrier italien, on a des bouviers bernois, un peu comme aussi Miron a des labernois. Si on a vraiment un peu de tout là, comme race de chien.
Alors au fond, tous les chiens peuvent faire ce genre de travail-là auprès des
oui,
gens
exactement.
Qui vivent de l'anxiété et tout là.
Oui, exactement. On leur fait passer un petit test là, à savoir s'ils ont la capacité pour être chien d'assistance. Puis s'ils passent le test, bien, on commence l'entraînement à ce moment-là.
Ah, d'accord. Bien, qu'est-ce que ça prend pour justement qu'ils passent le premier test?
Bien, il faut qu'ils soient social. Donc, il ne faut pas qu'ils aient peur. Il faut, entre autres, il ne faut surtout pas qu'il y ait d'agressivité. On va s'entendre là-dessus. On ne veut pas que le chien soit trop stressé parce qu'on a des chiens qui sont très stressés. Puis il faut penser qu'ils vont aller en public assez régulièrement. Donc, il ne faut pas qu'ils aient peur. Donc, c'est vraiment là, il ne faut pas qu'il y ait d'agressivité ni trop d'anxiété. Sinon, par la suite, tout le reste peut se montrer. Le chien peut être trop heureux lors de l'examen, puis c'est correct, on va juste lui montrer à se contenir.
Mm-hmm. Donc, vous êtes bien entouré comme organisme, c'est-à-dire que vous avez des membres de l'équipe qui ont quand même beaucoup d'années d'expérience dans le domaine. Il y en a aussi qui travaillent dans des établissements vétérinaires, hein, notamment.
Oui, exactement. On en a qui travaillent dans les établissements vétérinaires. On a des éducateurs canins qui ont leur diplôme. Puis on a aussi une équipe là, en santé mentale aussi. Là.
C'est ça. Vous avez, en fait, quand on va sur votre site, là, on vous guide selon vos besoins. Il y a des chiens, ce qu'on appelle des chiens d'assistance, mais il y a également des chiens qui vont faire un autre genre de travail, qui vont faire plus du support émotionnel.
Oui, exactement. Donc, les chiens de support émotionnel ne sont pas reconnus au Québec, mais ça peut arriver là, qu'on en aille, qu'on doit entraîner pour ça. C'est surtout les personnes qui vont souffrir d'anxiété quand ils sont à la maison. On en a quelques-uns qui, à la maison, ils ont l'anxiété dans le tapis, mais à l'extérieur, ils sont corrects. Donc, à ce moment-là, on entraîne le chien pour aider le bénéficiaire dans la maison. Puis, on a des chiens de thérapie aussi.
D'accord, des animaux de thérapie, donc. Mais en fait, des animaux de thérapie, ça ne remplace pas nécessairement, si on veut, ça remplace pas un thérapeute là, en tant que tel, mais ça va apporter juste un réconfort, au fond.
Exactement. Même le chien d'assistance ne remplacera jamais une thérapie. Les chiens de thérapie, là, c'est surtout qu'ils vont aider avec l'azothérapeute à obtenir des objectifs. Mais ça le remplace. Il n'y a rien qui remplace, par exemple, la thérapie avec un professionnel, par contre.
Mm-hmm. Bon, alors comment ça fonctionne? C'est-à-dire, bon, j'imagine, vous, est-ce que vous bénéficiez d'une aide gouvernementale pour former ces chiens-là?
Malheureusement, non. Il n'y a pas d'aide gouvernementale pour aider nos bénéficiaires. La seule chose qui les aide, ça, ils peuvent le mettre toutes les dépenses du chien sur leurs impôts fédérales.
D'accord.
Donc, dans les soins médicaux.
Parce qu'en fait, vous comptez sur des familles d'accueil. Ça fonctionne un petit peu. Bon, je sais que Mira, c'est un peu ça. Au fond, il y a des familles d'accueil qui vont voir un petit peu à faire l'entraînement, au fond.
Oui, bien, la différence, nous, avec Mira, c'est que nos familles d'accueil font l'entraînement complet. de nos chiens avec notre aide. C'est sûr, ils vont toujours être accompagnés de nous et ça, ils seront jamais laissés à eux-mêmes. C'est qu'ils vont remplacer un peu le bénéficiaire. Donc, ils vont entraîner le chien avec notre aide pour les besoins du bénéficiaire. Puis quand on arrive vers la fin de l'entraînement, on fait le transfert vers le bénéficiaire pour que, justement, que le chien apprenne à travailler avec son bénéficiaire.
C'est ça. Donc, concrètement, là, bon, en fait, parce que vous aussi, vous donnez des cours, c'est ça, d'obéissance, vous-même, là, vous apportez ce genre de soutien-là aux familles. Bon, en fait, bon, le chien apporte une aide technique, hein, ça peut être ça, ça peut être ramasser, par exemple, des objets au sol. On dit même prévenir des crises d'épilepsie.
Oui, la seule chose, nous, on ne se spécifie pas là-dedans parce que c'est très, très, très complexe l'entraînement des chiens pour le diabète et pour l'épilepsie. Souvent, ceux qui vont l'avoir, qui vont l'avoir d'instinct. Quand ils l'ont d'instinct, on peut aider le bénéficiaire à ce moment-là. Mais s'ils ne l'ont pas, que le chien ne le sent pas, malheureusement, on ne peut pas l'aider parce qu'on n'est pas équipé pour ça.
Je comprends.
Parce que c'est très complexe.
OK. Mais le chien sent, effectivement, par exemple, si une personne souffre beaucoup d'anxiété, le chien va le sentir, c'est ça?
Oui, exactement. On a même des chiens qui le sentent presque 2 heures avant la crise d'anxiété.
Ah, mon Dieu!
Donc, ils sentent d'avance. Là. On en a beaucoup qui prévient. On en a une qui s'évanouit sans crier gare. Puis le chien l'avertit pour aider de s'asseoir au sol.
Ah.
Justement pour éviter qu'elle tombe, parce qu'elle a déjà tombé plusieurs fois dans le passé avant d'avoir son chien et elle se faisait des commotions et elle se blessait souvent parce qu'elle ne savait pas, donc elle était debout puis elle tombait à partir de debout.
Ah bon, mais c'est incroyable quand même, c'est quand même très important ce soutien-là que le chien apporte. Et puis bon, on les reconnaît comment vos chiens?
Nous, ils ont des dossards, donc nos dossards sont mauves, puis ils sont identifiés au nom des chiens d'Anakim. On les reconnaît de cette façon-là quand ils sont en formation, puis quand ils sont certifiés aussi, là, ils ont les mêmes dossards de couleur mauve et lilas.
Ouais. Ben, vous recherchez régulièrement quand même des familles d'accueil. C'est important d'avoir ce soutien-là. C'est là-dessus que vous comptez essentiellement. Bon, ils doivent héberger l'animal combien de temps à peu près?
Ils doivent héberger l'animal environ pendant 1 an et demi. Donc, ils ont 1 an et demi à entraîner le chien avec notre aide pour par la suite le laisser partir vers son bénéficiaire.
C'est ça. Et puis bon, ça consiste à quoi le rôle de famille d'accueil?
Souvent, nos familles d'accueil vont avoir le chien quand il va être un jeune chiot. Donc, c'est de le mettre propre, de le socialiser, d'y apprendre les bases. C'est de faire en sorte qu'il y ait des expériences positives avec les humains pour que, justement, il n'y ait peur de rien. Puis, par la suite, c'est de montrer des tâches là, au chien qui sera bénéfique là, pour le bénéficiaire.
D'accord. Donc, ça suppose, c'est ça, des animaux qui ont cette capacité à socialiser, mais bon, c'est ça. Donc, c'est une. Puis la famille d'accueil, évidemment, il faut avoir beaucoup de patience, inévitablement.
Oui. Exactement, beaucoup de patience et d'amour à donner. Oui,
beaucoup d'amour, beaucoup de patience et puis être âgé de 18 ans ou plus. Enfin, je pense qu'il y a tout quand même des critères.
Oui.
Bon, alors ben, écoutez, c'est très intéressant. Alors si quelqu'un est intéressé, ben, on communique avec vous. Alors c'est ça, les chiens d'Anakim plutôt. C'est ça, exactement. Ben, merci d'être venu nous en parler. Ça a été fort intéressant, fort instructif, Sonia Baillargeon.
Bien, merci à vous de l'invitation.
Parfait. Au revoir et passez une bonne journée.
Merci, bonne journée.
Et bien là-dessus, chers auditeurs, ben, je vous retrouve lundi, hein, une autre semaine devant nous, une autre semaine de belles rencontres, de découvertes. Alors, soyez là à compter de midi la semaine prochaine. Lundi, je serai avec vous, bien sûr. Merci, au revoir. Ici Chantal Lavoie. Bonne journée à vous.